Vous écoutez, on lit pour vous.
Scott B. Anderson, la représentation queer et des Premières Nations en BD. Une entrevue réalisée par Benoît Mignot, parue le 27 juillet 2023 dans le magazine Fugue. Depuis déjà plus de 10 ans, Scott B. Anderson illustre des récits articulés autour de personnages autochtones ou issus des communautés LGBTQ2S+. À l'occasion de son passage au Festival BD de Montréal et de la publication en français du tome 2 du Redresseur, il nous fait part de son parcours et de ses influences. L'histoire ou la réalité des premiers peuples est présente dans presque toutes tes BD, que ce soit dans le super-héroïque, le redresseur ou le documentaire. Elle s'appelle Echo, cette génération, Sugar Falls. Qu'est-ce qui motive cet intérêt? Scott B. Anderson. Je dois avouer que ma connaissance de l'histoire autochtone était, au départ, assez réduite. C'est seulement après avoir été approché par High Water Press pour illustrer des récits d'auteurs issus de ces communautés que j'ai été plongé dans un univers qui m'était largement inconnu, mais qui m'a immédiatement fasciné. Il faut se rappeler qu'il y a 15 ans à peine, on ne retrouvait que très peu d'œuvres mettant en scène des personnages autochtones au-delà des clichés du guerrier ou du noble sage qui communique avec les animaux. Pour ces auteurs, il était donc essentiel d'offrir des récits dans lesquels il était non seulement possible de se reconnaître, mais également de se faire connaître. Plusieurs titres sont d'ailleurs utilisés en classe en raison de leur valeur pédagogique, comme « Sugar Falls » sur l'histoire des pensionnats ou « Cette génération » et lorsque je participe à des conventions ou des festivals, il m'arrive souvent d'être interpellé par un participant tout emballé de tenir entre les mains un titre qui l'avait marqué. Comment la conception visuelle d'un personnage se réalise-t-elle? Scott B. Anderson. J'essaie toujours de m'écarter des clichés. Pour les Autochtones, on se tient loin des vêtements de cuir, des peintures guerrières au visage et des coiffes de plumes. Dans le même sens, les personnages n'ont pas d'alias et si ça arrive un jour, ce ne sera certainement pas un cliché du genre chaman. Il y a d'ailleurs un gag à ce sujet dans le tome 1 du Redresseur. Pour les personnages queers, j'accorde beaucoup d'importance à diversifier les expressions de genre ou à mettre de l'avant une non-binarité. Je tente également d'insuffler une diversité corporelle puisqu'il est très facile de toujours reproduire le même gabarit. Un peu comme Batman et Superman qui se ressemblent tellement que la différence se situe souvent sur le plan du costume. Lorsque je lis un scénario, j'imagine rapidement les personnages et je m'appuie ensuite sur des références réelles pour documenter les mouvements du visage et du corps. Dans le scénario du Redresseur, par exemple, il n'y avait pas d'indication sur l'apparence de Brady, mais je l'ai immédiatement perçu comme un homme plus enveloppé, un peu « bear ». Je me suis ensuite inspiré des photos d'un activiste des Premières Nations qui correspondait à cette image mentale. Parlant du Redresseur, n'y a-t-il pas des parallèles à tisser entre cette série et les X-Men? Scott B. Anderson. La comparaison est sans doute inévitable puisque dans les deux cas, on retrouve des groupes de jeunes persécutés en raison de leurs différences, sur lesquels expérimentent des conglomérats militaro-scientifiques. Un peu comme chez Wolverine, les thèmes de l'anxiété, de l'amnésie et des symptômes post-traumatiques sont également présents tout au long de la série, plus particulièrement chez le personnage de Cole Harper. Jusqu'à un certain point, l'anxiété de Cole, relativement à un passé qu'il tente de ramener à la surface, est peut-être même une métaphore sur l'urgence de raconter les récits autochtones. Que penses-tu de la présence LGBTQ2S+, dans les films de super-héros? Scott B. Anderson. Les avancées sont timides. C'est légèrement supérieur à une diversité de façades, mais sans plus. Thor, Amour et tonnerre est sans doute le film le plus queer du lot. Korg et ses deux pères, Valkyrie qui est bisexuelle, et, dans Doctor Strange, dans le multivers de la folie, America Chavez a deux mères, mais encore une fois, c'est à peine abordé. L'annonce par James Gunn de l'adaptation au cinéma de la BD The Authority m'a donc particulièrement surpris puisque les deux personnages principaux forment un couple gay. Mon enthousiasme demeure prudent, puisque j'attends de voir comment Midnighter et Apollo seront représentés. Comme il s'agit d'une transposition de Batman et de Superman, si c'est bien fait, ce pourrait être une variation extrêmement intéressante. Croisons les doigts. Que penserais-tu d'une adaptation télévisuelle du Redresseur? Scott B. Anderson. Ce serait fantastique puisque ça permettrait de combiner des thèmes sociaux et des éléments de l'histoire autochtone au cœur d'un récit de science-fiction et d'action, ce qui sortirait clairement des sentiers battus. Étrangement, ce serait même un retour aux sources, puisqu'en 2013, je travaillais déjà sur une BD basée sur le même concept et un studio avait pris une option pour la télévision. C'est cependant tombé dans les limbes et lorsque les droits sont revenus au scénariste David A. Robertson, il a rédigé une trilogie des romans qui a ensuite été adaptée dans la BD qu'on connaît. Quels sont tes projets en cours? Scott B. Anderson. Je suis en train de finaliser les tomes 3 et 4 du Redresseur et j'ai de nombreuses idées pour mettre en place des personnages queers au cœur d'un univers de fantasy. J'aimerais également revisiter un personnage bisexuel que j'ai créé au début de ma carrière et que je n'ai alors pas suffisamment développé puisque j'étais en pleine crise identitaire. Un rendez-vous manqué qui m'agace encore et que je souhaiterais un jour corriger. Cette entrevue a été traduite et modifiée par souci de concision. C'était Scott B. Anderson, la représentation queer et des Premières Nations en BD. Une entrevue réalisée par Benoît Mignot, parue le 27 juillet 2023 dans le magazine Fugue.
Tariouk, bientôt des forages dans l'Arctique? Un texte de Denis Laure, paru le 18 août 2023 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. Le Canada et les États-Unis ont récemment reconduit le moratoire de 2016 sur la délivrance de nouveaux permis pétroliers et gaziers dans les eaux arctiques du Canada. Le rapport est d'une durée indéterminée, mais reconduit tous les 5 ans sur la base de données scientifiques. Le moratoire d'une durée indéterminée sur les activités extracôtières dans l'Arctique reste en place, assure Kyle Allen, l'attaché de presse du ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal. L'ordonnance interdisant toutes les autres activités pétrolières et gazières dans cette région sera également maintenue pendant la durée du moratoire. L'accord répond à un engagement pris dans le cadre Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Yukon de 1993 et des territoires du Nord-Ouest de 2013 et constitue un modèle de coopération en matière d'énergie propre pour l'avenir. Porte ouverte. Le décret DORS, D-O-R-S, /2022-274, rendu public en décembre 2022, semble pourtant ouvrir la porte à des forages. Le décret interdisant certaines activités dans les eaux au large de l'Arctique, qui devait échoir en décembre 2021, a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2023 pour permettre au gouvernement du Canada de partager les conclusions de l'examen scientifique du climat et du milieu marin qui a été élaboré conjointement avec les gouvernements du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut avec la société régionale Inuvialuit et avec Nunavut Tungavik Incorporated. Un premier examen scientifique quinquennal de la zone extra-côtière de l'Arctique est terminé, mais il n'a pas encore été diffusé. Il sera publié prochainement sur le site Internet de Relations Couronne Autochtones et Affaires du Nord Canada, RCAANC, selon un porte-parole de ce ministère. Les communautés du Nord doivent être rencontrées pour partager ces données. À la suite de ce processus de mobilisation, un deuxième examen quinquennal du moratoire fondé sur des données scientifiques pourrait être nécessaire. Peut-on lire dans la Gazette du Canada, partie 2, volume 157, numéro 1. Mise en dormance du permis. Le décret DORS/2022-274 met un terme aux activités pétrolières et gazières en Arctique, mais met aussi en pause le nombre de jours restants aux 11 permis d'exploration actifs Imperial Oil, BP Canada, Chevron Canada, ConocoPhillips Canada, et Franklin Petroleum dans la mer de Beaufort pour éviter qu'il n'arrive à échéance. Les gouvernements territoriaux, les organisations inuites du Nord, l'industrie et les détenteurs de permis ont fait savoir aux représentants de RCAANC qu'ils souhaitaient que la porte reste ouverte à l'exploitation future du pétrole et du gaz dans la zone extra-côtière de l'Arctique et que les 11 permis d'exploration actifs dans la mer de Beaufort sont essentiels pour relancer toute exploitation future, fait valoir le gouvernement canadien dans la Gazette. Un porte-parole du gouvernement du Yukon affirme que son gouvernement n'est pas pour autant en faveur de l'exploitation des hydrocarbures extracôtiers, mais qu'il voulait, par l'entente, bénéficier d'une voix claire à ce chapitre. Le GTNO, dit un porte-parole de celui-ci, a participé à l'examen du moratoire, qui inclut de la science et du savoir traditionnel et local, qui aidera à décider si le moratoire doit rester en place. C'est important que les gens du Nord aient un rôle décisionnel dans la conservation et les initiatives économiques de l'Arctique de l'Ouest. Que le moratoire reste en place ou non, il faut noter que le Canada n'a pas encore tenu sa promesse de fournir de nouvelles opportunités durables qui ont été perdues quand notre industrie gazière et pétrolière et les emplois qui y étaient liés ont été abandonnés. Des ressources compétitives? L'entente corrige quelques-unes des erreurs faites en 2016 quand le gouvernement fédéral a pris de court ses partenaires autochtones et territoriaux en annonçant un moratoire sur les permis d'essence et de gaz sans les consulter, affirme Heather Exner-Pirot, directrice des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement à l'Institut McDonald-Laurier et éditrice du Arctic Yearbook. Cependant, le développement du gaz et du pétrole dans la région est confronté à un combat difficile. La demande en pétrole a atteint un nouveau record global le mois passé. Mais il y a des endroits moins dispendieux que l'extra-côtier arctique. Si des compagnies cherchent à étendre significativement leur production au Canada. Une aide de 2,5 millions. Le gouvernement du Canada collaborera avec les parties pour mettre en œuvre l'accord sur l'Arctique de l'Ouest, TARIUC, dans les lois fédérales dès que possible. Ensuite, l'accord établira une entente sur la gestion conjointe et le partage des revenus du gaz et du pétrole entre celles-ci. Cet accord est une étape positive permettant de garantir que les territoires du Nord-Ouest soient directement impliqués dans les décisions importantes qui affectent la région extracôtière de l'Arctique, de l'Ouest, aux côtés du Canada, du Yukon, et de la société régionale Inuvialuit, fait valoir, par voie de communiqué, la première ministre des TNO, Caroline Cochrane. L'accord octroie à la société régionale Inuvialuit un rôle complet et égalitaire dans la participation aux projets de développement pétrolier et gazier, extracôtier, dans sa région et de bénéficier directement des retombées de ses activités. Le budget de 2022 a fourni une aide financière de 2,5 millions sur 5 ans pour soutenir la participation de la société régionale Inuvialuit à la mise en œuvre et à l'administration de l'accord. C'était Accord TARIUC, bientôt des forages dans l'Arctique? Un texte de Denis Laure, paru le 18 août 2023, dans L'Aquilon, des territoires du Nord-Ouest.
Dalia Namian, Jusqu'où l'indécence? Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires. Les Libraires du Québec ont choisi cette année de récompenser, dans la catégorie essai, le titre « La société de provocation, essai sur l'obscénité des riches, Luxe 2023 » de Dalia Namian, docteur en sociologie et professeur à l'Université d'Ottawa. Démonstration sans équivoque du pouvoir et de la démesure sans gêne des ultra-riches, ce livre soulève par la bande le mutisme dont la population fait preuve, voire la déférence portée envers les mieux nantis de la planète, qui participe pourtant à creuser le gouffre des disparités devenu à ce jour abyssal. S'intéressant avant toute chose au sujet de l'itinérance et des inégalités, Dalia Namian se penche cette fois-ci sur l'autre bout du spectre, à savoir le luxe et l'opulence, qui entraînent toutefois des conséquences directes sur les premiers. Avant même d'entamer ses études supérieures, sans connaître encore les rouages défaillants d'une configuration occasionnant déséquilibre et iniquité, l'autrice est sensible à ces thèmes. Aussi, mon père a grandi dans un pays communiste, la Roumanie. Mais il avait quand même un discours très critique sur le capitalisme sauvage. J'ai entendu ça toute ma jeunesse, informe l'autrice, supposant que cela a dû influer sur sa route. Puis, un stage chez Alternative, une organisation de solidarité, l'amène vers une vraie conscience politique, explique-t-elle. La sociologie viendra éclaircir des questionnements et sûrement en apporter d'autres. La complexité des composantes de la pauvreté étant multiple. Rouler sur l'or. En examinant de près la condition des sans-abri, le comportement ostensible des ultra-riches qu'elle explore dans La société de provocation, titre qu'elle emprunte à l'écrivain Romain Gary, lui apparaît d'autant plus aberrant. Au cours des recherches qu'elle effectue sur le terrain où, par l'entremise de divers organismes, elle se rend par exemple dans des refuges ou des campements, elle est à même de constater l'ampleur du problème. Je me dis toujours que si les élus allaient, ne serait-ce qu'une journée sur place pour comprendre, il y aurait peut-être quelque chose qui bougerait en eux, soutient Namian. Je les trouve vraiment déconnectés sur ces questions-là. L'étendue des possessions semble inversement proportionnelle à un certain sens éthique des autres, dû, selon la chercheuse, à un entre-soi qui distancie les classes les unes des autres, les plus fortunés se créant une rhétorique entérinant leur position de privilégiés. L'autrice déplore cet état de fait, mais constate possiblement avec plus d'émoi l'argumentation populaire composée de respect pour les uns, aux pratiques à la limite de la légalité ou tout bonnement frauduleuses, et de mépris pour les autres, les plus vulnérables qui font cependant preuve jour après jour d'ingéniosité pour survivre. Malgré des exemples flagrants et des investigations sérieuses sur la conjoncture actuelle, les mentalités demeurent lentes à évoluer. Il y a un concept en sociologie, on parle de domination symbolique. Les riches réussissent à avoir une très grande influence sur les représentations culturelles qu'on a d'eux pour qu'on puisse justifier le fait qu'ils soient là et même de les admirer, soutient l'essayiste. Bien que le cri d'alarme ait été lancé depuis longtemps, la question de l'écologie hérite d'une même stagnation en ce qui concerne les gestes à poser au profit d'une société basée sur l'enrichissement personnel d'une minorité qui détient déjà plus qu'il n'en faut. Au Québec, l'idée prégnante d'une méritocratie a tendance à tordre la réalité. Un portefeuille bien garni s'acquiert à force de travail. Par conséquent, cela induit qu'une personne en situation de pauvreté ne fournit pas les efforts nécessaires pour s'élever au-dessus de son contexte. Dahlia Namian remet en question le droit que des individus puissent posséder des milliards. S'il y a des gens qui réussissent à accumuler autant de fortune, c'est que l'État ne fait pas sa job de redistribution des richesses, pense la sociologue. Si on regarde juste les écarts salariaux entre les PDG des plus grandes entreprises au Canada et les employés, les patrons gagnent 220 fois plus que la moyenne des salariés. C'est le principe même du capitalisme d'avoir la possibilité de s'enrichir à l'infini, ce qui s'avère très dangereux, d'après la professeure. Les statistiques annoncent que 12 milliardaires ont une plus grande empreinte écologique que 2,1 millions de personnes. Une meilleure répartition des avoirs permettrait de combler au moins les besoins primaires de plus de personnes, mais aussi d'investir dans des secteurs dont l'intérêt n'est pas pécuniaire, par exemple l'éducation et la santé, des domaines qui accordent davantage de chances de s'extirper des circonstances de pauvreté. L'immobilisme est dû en grande partie au manque de volonté politique des gens en place, ceux qui possèdent le capital et le pouvoir, entretenant plutôt une architecture favorable au milieu autour duquel ils gravitent. Un autre monde. Le simple quidam que plusieurs d'entre nous représentent peut également prendre le temps de s'interroger sur son rapport personnel à l'argent et sur sa tendance, parfois inconsciente, à considérer la valeur et l'importance d'une personne à l'aune de la fortune qu'elle possède. Je pense qu'il y a tout ce travail-là qu'il faut être capable de faire. Une déconstruction d'une certaine mythologie du rêve américain qui amène la perspective que la réussite est matérielle et que le succès est de posséder des biens, affirme Namian. On se rappelle notamment les reportages montrant la perception des gens face à des inconnus, l'un revêtant veston et cravate, l'autre portant des vêtements dépareillés et mal ajustés. L'expérience conclut assez rapidement que notre confiance et notre estime tendent de façon presque automatique vers le premier. Alors qu'il n'y a rien chez lui qui garantit de meilleures intentions par rapport au second. Le discours ambiant laisse entendre que le capitalisme figure un moindre mal, la moins pire des structures envisageables. La voie du pessimisme est facile à suivre, se disant que peu importe dans quelle société nous vivrons, toute articulation finira par donner raison aux démagogues qui parviendront toujours à s'infiltrer parce que ce serait dans la nature de l'être humain de vouloir trôner au sommet. J'ai le sentiment quand même que les gens ressentent aujourd'hui à quel point vivre dans ce système-là, c'est aussi souffrant pour la plupart, croit la sociologue, arguant que la détérioration de l'environnement prouve qu'un tel profil économique ne tient plus la route. Le capitalisme a épuisé ses propres ressources, participant lui-même à sa destruction. Il est en train de s'auto-dévorer. Donc on ne peut plus vraiment prétendre qu'il n'y a pas d'autres alternatives. On a une responsabilité morale de se dire qu'il existe peut-être d'autres façons de vivre. Dalia Namian a commencé son militantisme au début des années 2000. Elle clamait alors qu'un autre monde était possible, malgré les commentaires la reléguant dans le camp des utopistes. Maintenant, elle ne sait pas si on peut le concevoir, mais déclare qu'il n'y a pas d'autre choix que d'essayer au moins d'y réfléchir. L'essai, la société de provocation, constitue une excellente manière de méditer sur le sujet, de lancer la discussion et d'agir pour un changement de paradigme. C'était Dalia Namian, Jusqu'où l'indécence, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires.